j'enregistre. Vas-y, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Sarah Choisy, thérapeute, chanteuse et autrice et chroniqueuse sur Radio Tintouin. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Bonheur à lire, la chronique qui vous partage des livres qui font du bien, qui ouvrent des portes, qui nous invitent parfois à regarder notre vie sous un angle nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a profondément marqué mon parcours personnel lorsque j'étais étudiante. Un livre qui est arrivé dans ma vie à une période où j'étais en transition, où je cherchais des réponses concernant mon avenir professionnel, mais aussi à une époque où je m'ouvrais davantage à mon intériorité, où je ressentais le besoin d'approfondir ma vie spirituelle et où j'avais clairement besoin aussi de discipline, de structure et d'un modèle inspirant pour nourrir ma propre pratique intérieure. Ce livre, c'est « Mange, prie, aime » d'Elisabeth Gilbert. Lorsque je l'ai découvert, je pensais ouvrir un simple récit de voyage. Je m'attendais à suivre une femme à travers différents pays, à découvrir des paysages, des cultures et quelques anecdotes. Mais j'ai trouvé bien davantage. J'ai trouvé le témoignage sincère d'une femme qui accepte de se perdre pour mieux se retrouver. J'ai découvert le récit profondément humain d'une quête de sens, d'une reconstruction et d'une réconciliation avec soi-même. Et je crois que c'est précisément ce qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde. Parce qu'au fond, nous avons tous traversé des périodes où nous ne savions plus très bien qui nous étions. Des périodes où tout semblait continuer normalement à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, quelque chose appelait au changement. Des moments où l'on sent que l'on ne peut plus continuer exactement comme avant, sans savoir pour autant quelle direction emprunter. Cette chronique n'est donc pas seulement le récit d'un voyage à travers l'Italie, l'Inde et Bali. C'est aussi l'histoire d'une femme qui décide de devenir l'actrice de sa propre transformation intérieure. Une femme qui cesse d'attendre qu'une réponse vienne de l'extérieur et qui choisit de partir à sa propre rencontre. Et pour moi, ce livre occupe une place particulière. À l'époque où je l'ai lu, comme je vous le disais, j'avais besoin d'approfondir mon intériorité, mon intuition. J'avais besoin de mieux comprendre cette petite voix intérieure que l'on entend parfois à peine sous le bruit du quotidien. J'avais besoin d'apprendre à lui faire confiance et surtout d'apprendre à lui laisser de la place. Ce qui m'a profondément touchée, c'est que l'héroïne n'est pas présentée comme une femme exceptionnelle au départ. C'est une femme ordinaire, confrontée à des questions universelles. Une femme qui doute, qui souffre, qui cherche. Et pourtant, sa vie prend une saveur extraordinaire parce qu'elle ose partir à la rencontre d'elle-même. C'est sans doute ce qui rend ce livre si puissant. Il nous rappelle que les plus grands voyages ne commencent pas forcément dans un aéroport. Ils commencent souvent par une décision. Mais avant d'entrer pleinement dans ce voyage intérieur, je vous propose une première parenthèse musicale, une chanson qui évoque parfaitement ce moment où l'on sent qu'une nouvelle page est sur le point de s'écrire, même si l'on ne sait pas encore ce qu'elle contiendra, avec Yael Naïm, New Soul.
Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Fighting trust and love is not always easy to make. cause you don't understand. Everything you have done, why is everything so wrong? This is a happy end, come and give me your hand, I'll take you far. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake.
Eh bien, c'était Yael Naïm avec New Soul et nous allons continuer avec notre découverte du jour, écrit sous la forme d'un récit autobiographique à la première personne. Manche Pri M raconte l'histoire profondément intime d'une femme qui, après avoir vu s'effondrer l'existence qu'elle croyait devoir vivre, entreprend un voyage autour du monde dans l'espoir de retrouver un équilibre intérieur, une paix durable et un sens plus authentique à sa vie. Au début du récit, Elizabeth Gilbert traverse une crise existentielle majeure. Son mariage, qui représentait autrefois la promesse d'une vie stable et heureuse, est devenu une source de souffrance et d'étouffement. Après un divorce douloureux et une relation amoureuse qui ne parvient pas davantage à combler son vide intérieur, elle se retrouve confrontée à une question fondamentale : comment continuer à vivre lorsque les repères qui structuraient toute une existence se sont effondrés ? Convaincue qu'elle doit sortir du cadre habituel de sa vie pour se retrouver, elle décide de consacrer une année entière à un voyage initiatique réparti en 3 étapes correspondant chacune à une dimension essentielle de son être : le plaisir, la spiritualité et l'équilibre. Alors, ce qui m'a immédiatement plu chez Elizabeth Gilbert, c'est qu'elle ne se présente jamais comme une gourou. On a plutôt l'impression de découvrir une amie qui nous écrirait régulièrement pour nous raconter ce qu'elle traverse, ce qu'elle comprend et ce qu'elle remet en question, et surtout ce qu'elle découvre d'elle-même. Lorsqu'elle écrit, elle ne se présente pas du tout comme quelqu'un qui sait tout. Elle ne prétend jamais posséder une vérité absolue. Elle n'essaie pas d'enseigner depuis une position supérieure. Elle raconte simplement son histoire. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant, parce qu'elle est profondément humaine. Elle doute, elle souffre, elle hésite, elle commet des erreurs, elle recommence. Et dans cette sincérité, chacun peut reconnaître une part de lui-même. Il nous arrive souvent de croire que nous sommes seuls à traverser certaines questions. Nous pensons être les seuls à ne plus savoir quelle direction prendre, les seuls à ressentir un vide malgré une vie qui paraît réussie, les seuls à nous demander pourquoi nous ne sommes pas heureux alors que nous avons tout ce qu'il faut pour l'être. Or, ce livre nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les crises existentielles ne sont pas des anomalies, elles font partie du cheminement humain. L'un des thèmes qui me touche le plus dans cet ouvrage est sans doute la permission que l'autrice s'accorde, la permission de remettre sa vie en question, la permission de donner du sens à sa vie, de nouveau la permission d'avoir du plaisir dans sa vie. Cela paraît simple lorsque l'on formule les choses ainsi, pourtant c'est extraordinairement difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous vivons dans une société qui nous apprend à tenir bon, à persévérer, à continuer coûte que coûte dans des rôles qui ne nous conviennent plus, à rester cohérents avec les choix que nous avons faits autrefois. Mais parfois, la vérité et la véritable cohérence consistent justement à reconnaître qu'un choix ancien ne correspond plus à la personne que nous sommes devenus. Je crois que beaucoup de personnes restent enfermées dans des situations qui les rendent malheureuses, non pas parce qu'elles ne voient pas la sortie, mais parce qu'elles ne s'autorisent pas à la prendre. Elles attendent une permission extérieure, un signe, une validation, quelqu'un qui leur dira « tu as le droit ». Et ce livre raconte précisément cela, le moment où une femme cesse d'attendre qu'on lui donne la permission de vivre sa vie. Dans ce livre, Elizabeth Gilbert découvre progressivement qu'il est possible de retrouver de la joie dans les choses simples. C'est pour ça que je vais vous partager une chanson qui accompagne parfaitement cette idée, celle de se souvenir de ce qui compte vraiment lorsque la vie devient trop bruyante. Une chanson de Zaz, « Si jamais j'oublie ».
Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année.
C'est C'était Zaz. Si jamais j'oublie, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à entendre cette voix. On va parler justement de plaisir comme chemin de guérison. Et c'est l'une des premières surprises de ce livre, dans le livre d'Elisabeth Gilbert, qui donne vraiment une place importante au plaisir. Lorsqu'elle arrive en Italie, elle ne cherche pas encore l'illumination spirituelle. Elle ne cherche pas à devenir une meilleure version d'elle-même. Elle ne cherche même pas à résoudre tous les problèmes de son existence. Elle cherche simplement à respirer, à retrouver une forme de légèreté, à réapprendre à habiter sa vie autrement que dans la douleur ou dans la lutte permanente. Pendant longtemps, dans certaines approches, notamment du développement personnel, comme dans certains courants spirituels, le plaisir a parfois été regardé avec méfiance, comme s'il était superficiel et comme s'il détournait de l'essentiel. En gros, comme s'il représentait une forme de distraction éloignant de la véritable sagesse. Elisabeth Gilbert, elle, nous propose une vision radicalement différente. Elle nous montre que le plaisir peut aussi être un chemin de guérison et d'illumination. À travers les repas qu'elle partage, les saveurs qu'elle découvre, les mots italiens qu'elle apprend avec gourmandise, les rencontres qu'elle fait et les villes qu'elle explore, elle redécouvre quelque chose de fondamental, la joie simple d'exister. Et ce passage du livre m'a profondément marqué parce qu'il vient questionner une croyance que beaucoup d'entre nous portent sans même s'en rendre compte, l'idée que pour mériter le bonheur, il faudrait d'abord avoir réglé tous nos problèmes, comme s'il fallait attendre d'aller parfaitement bien pour s'autoriser à profiter de la vie. Or, Elisabeth découvre exactement l'inverse. Elle comprend que la joie n'est pas forcément la conséquence de la guérison. Elle peut parfois en être le point de départ. Et moi, dans mon travail de thérapeute, j'observe souvent ce phénomène. Les personnes qui commencent à aller mieux ne sont pas forcément celles qui ont résolu toutes leurs difficultés. Et bien souvent, ce sont celles qui réintroduisent progressivement de la vie et du plaisir dans leur quotidien. Elles recommencent à rire, elles reprennent une activité qui leur plaît, elles passent davantage de temps avec les personnes qui les nourrissent émotionnellement, elles réapprennent à observer un coucher de soleil, à écouter une chanson qui les touche ou simplement à savourer un repas sans culpabilité. Et ce que nous enseigne cette partie italienne du voyage d'Elisabeth, c'est que le bonheur n'est pas nécessairement un sommet que l'on atteint après des années d'efforts. Il peut aussi se cacher dans les petites expériences du quotidien que nous avons cessé de remarquer. Et je trouve cela profondément réconfortant, parce qu'au fond, cette première étape du voyage nous rappelle que nous avons le droit de goûter à la vie avant même d'avoir tout compris. Alors, après avoir réappris à savourer la vie, vient souvent une autre étape, celle de la rencontre avec soi-même et de la discipline que cela implique. Une étape parfois exigeante, parfois inconfortable, mais profondément transformatrice. Mais avant d'aborder cette partie du voyage, je vous propose une nouvelle parenthèse musicale avec Birdy, People Help the People.
Hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lies. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good pass away.
Dans son ouvrage, Elisabeth nous parle de la discipline spirituelle et l'art de se rencontrer. Et pour ce faire, elle nous emmène en Inde, et le contraste est saisissant. Après la douceur italienne, après les plaisirs de la table et la beauté des villes baignées de lumière, Elisabeth Gilbert entre dans un univers beaucoup plus dépouillé. Un univers où il ne s'agit plus de nourrir le corps, mais de rencontrer l'esprit. Et c'est probablement la partie qui m'a le plus nourrie personnellement lorsque j'ai découvert ce livre. Parce qu'elle vient répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Comment développer une véritable relation avec soi-même ? Nous parlons souvent d'intuition, nous parlons de spiritualité, nous parlons de connexion intérieure. Ces mots sont devenus très présents dans notre société. Pourtant, il est beaucoup plus rare de parler de ce que cela demande réellement. Car derrière chaque pratique intérieure durable, il y a une forme de discipline, une présence, une régularité, un engagement. Elisabeth Gilbert découvre progressivement que la paix intérieure n'est pas un état magique qui nous tombe dessus du jour au lendemain. Elle découvre que la méditation, la prière et l'observation de soi nous confrontent d'abord à tout ce que nous essayions jusque-là d'éviter. Nos peurs, nos blessures, nos regrets, nos attachements et nos résistances. Et c'est sans doute ce qui rend cette partie du récit si authentique. Elle ne nous présente jamais la spiritualité comme quelque chose de facile ou de confortable. Au contraire, elle montre combien la rencontre avec soi-même peut parfois être exigeante, dérangeante et surtout très humaine. Lorsque j'ai lu ces pages, elles sont venues résonner profondément avec mon propre cheminement de l'époque. Comme je vous le disais au départ, à cette époque de ma vie, j'avais moi aussi le désir d'approfondir mon intuition, d'avoir une meilleure connexion à moi-même. J'avais envie de mieux comprendre cette intelligence intérieure qui nous guide parfois bien avant que notre mental ait compris ce qui était en train de se jouer. Mais ce livre m'a rappelé une chose essentielle. L'intuition n'est pas seulement un don, c'est aussi une pratique, une écoute, une disponibilité, une qualité de présence à soi-même. Beaucoup de personnes attendent que leur intuition leur parle plus fort. Pourtant, ce n'est pas toujours elle qui manque de volume. C'est souvent le bruit intérieur qui est devenu trop fort. Le bruit des peurs, des obligations, des attentes des autres et de nos propres conditionnements. L'intuition, elle, parle doucement. Elle murmure. Elle suggère, elle invite. Et pour l'entendre, nous devons parfois apprendre à faire de la place, à ralentir, à créer du silence, à accepter de ne pas toujours avoir immédiatement les réponses. Cette partie du livre m'a appris qu'il existe une immense différence entre chercher des réponses à l'extérieur et développer la capacité à les écouter lorsqu'elles émergent de l'intérieur. Et cette leçon continue encore aujourd'hui à nourrir ma pratique personnelle comme mes accompagnements. Et pour accompagner cette réflexion sur l'écoute intérieure, je vous propose maintenant une chanson douce et lumineuse qui évoque l'équilibre, la simplicité et la présence à l'autre. Une chanson de Jack Johnson, Better Together.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go and knock on us so hard. And it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do. For places we got to be, we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Alors, ce que j'aime profondément dans Manche Pris M, c'est que la transformation n'y est jamais présentée comme un miracle instantané. Nous vivons dans une époque fascinée par les changements rapides. Nous aimons les récits où tout bascule en quelques jours. Nous aimons les révélations spectaculaires. Nous aimons croire qu'une seule prise de conscience peut suffire à transformer toute une existence. Mais la réalité est souvent beaucoup plus subtile. Et surtout, beaucoup plus belle. Elizabeth Gilbert nous montre que les véritables transformations ressemblent rarement à des éclairs. Elles ressemblent davantage à un lever du jour, quelque chose qui avance et qui change lentement, progressivement, presque imperceptiblement. Puis un matin, nous réalisons que nous ne sommes plus la même personne, que nous ne regardons plus le monde de la même manière. Tout au long de son voyage, l'autrice traverse des moments de doute, de fatigue, d'incompréhension et même parfois de découragement. Pourtant, elle continue. Pas parce qu'elle sait exactement où elle va, mais parce qu'elle accepte de faire confiance au processus. Et je crois que c'est l'un des plus beaux messages du livre. Nous n'avons pas besoin de connaître toute la route pour avancer, nous avons simplement besoin d'accepter le prochain pas. Et cette idée m'accompagne souvent. Parce que beaucoup souhaitent connaître immédiatement leur destination, elles voudraient être certaines que les changements qu'elles entreprennent les conduiront exactement là où elles espèrent arriver. Or, la vie fonctionne rarement ainsi. Bien souvent, nous découvrons notre chemin en marchant. Et c'est précisément ce que raconte Elizabeth Gilbert. Elle ne trouve pas sa vérité en une seule fois. Elle l'a construite au fil des expériences, des rencontres et des prises de conscience qui jalonnent son voyage. Et c'est cette progression lente, imparfaite et profondément humaine qui rend son récit si inspirant. Et donc, après avoir découvert la joie en Italie et approfondi sa vie intérieure en Inde, Elizabeth Gilbert poursuit son voyage vers Bali. Et franchement, je vous avoue que sa description de Bali m'a donné envie d'aller visiter un jour ce pays. J'ai trouvé cette troisième partie particulièrement intéressante parce qu'elle vient réconcilier ce que beaucoup de personnes opposent, c'est-à-dire que nous avons tendance à croire qu'il faut choisir entre la matière et l'esprit, entre le plaisir et la spiritualité, entre la réussite et la paix intérieure, entre le monde et le retrait du monde. Pourtant, ce que va découvrir progressivement Elizabeth à Bali, c'est qu'une vie épanouie n'est pas forcément une vie où l'on choisit un camp contre un autre. C'est peut-être même une vie où l'on apprend à faire dialoguer toutes les dimensions de son être. À Bali, elle rencontre des hommes et des femmes qui semblent avoir trouvé une forme de sagesse très différente de celle qu'elle imaginait. Une sagesse qui ne passe pas par le renoncement, mais par l'équilibre. Une sagesse qui ne consiste pas à fuir la vie, mais à l'habiter pleinement. Et je crois que cette idée est profondément moderne, parce que beaucoup d'entre nous cherchent encore à atteindre un idéal de perfection. Nous pensons qu'il existe quelque part une version idéale de nous-mêmes qui ne douterait plus, qui ne souffrirait plus, qui ne commettrait plus d'erreurs. Or, ce livre nous rappelle avec beaucoup de douceur que la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre. Une expérience qui demande parfois d'accepter nos contradictions, nos fragilités, nos ombres d'ombre, autant que nos qualités. Et ce que découvre Elizabeth à travers son voyage, c'est qu'il est possible d'être profondément spirituel tout en appréciant les plaisirs simples de l'existence. Il est possible d'écouter son intuition sans pour autant renoncer à sa raison. Il est possible de rechercher la paix intérieure sans se couper des relations humaines. Et cette réconciliation est peut-être l'une des plus belles réussites du livre. Il y a également un autre thème, qui traverse discrètement tout l'ouvrage et qui me touche particulièrement, c'est celui de cette liberté féminine. Bien sûr, Manche Pris M n'est pas un manifeste, ce n'est pas un livre militant, pourtant il raconte quelque chose que beaucoup de femmes connaissent intimement. Le moment où l'on réalise que l'on a parfois construit sa vie davantage à partir des attentes extérieures, où on a joué des rôles pour être la bonne fille, la bonne amie, parfois même avant de se demander qui l'on était réellement. Et ce qui me touche chez Elizabeth, c'est son honnêteté. Elle ne prétend jamais avoir toujours su ce qu'elle voulait. Au contraire, elle reconnaît s'être perdue, notamment dans son rôle d'être la bonne épouse et la bonne professionnelle. Elle reconnaît avoir confondu certains rêves avec ceux que la société lui avait présentés comme désirables. et je crois que beaucoup de lectrices se reconnaîtront dans cette expérience, car il faut parfois beaucoup de courage pour reconnaître que l'on poursuit un rêve qui ne nous appartient pas. Et il faut parfois beaucoup de courage aussi pour abandonner une image de soi devenue trop étroite et de surtout d'accepter de décevoir certaines attentes afin de rester fidèle à soi-même. À travers son voyage, Elizabeth Gilbert ne cherche pas simplement à reconstruire sa vie. Elle cherche à découvrir qui elle est lorsqu'elle cesse de jouer tous les rôles qui lui avaient été attribués. Et cette question me semble universelle. Qui sommes-nous lorsque nous cessons de vouloir correspondre? Qui sommes-nous lorsque nous ne cherchons plus à plaire? Qui sommes-nous lorsque nous commençons enfin à nous écouter? Et je pense que ce qui se passe, c'est que finalement, on se reconnecte à soi-même, à notre véritable soi, et d'une certaine façon, on retourne à la maison. C'est pour ça que je vais vous partager une chanson qui, je trouve, résonne fort avec ce message d'Edouard Sharp et The Magnetic Zeros, Home.
Thought it was gonna be your last. I was falling deep, deeply in love.
arrive doucement vers la fin de cette chronique. Et si je devais résumer ce que le livre m'a transmis, je crois que je pourrais le faire en trois enseignements essentiels. Le premier, c'est que le bonheur est une pratique. Nous avons tendance à imaginer le bonheur comme une destination, un lieu que nous atteindrons lorsque toutes les conditions seront enfin réunies, lorsque nous aurons par exemple davantage d'argent, davantage de temps, de réussite. Pourtant, ce livre nous montre que le bonheur se construit souvent dans les gestes les plus simples du quotidien, dans notre manière de regarder le monde, dans notre capacité à être présent à ce que nous vivons. Le deuxième enseignement est que l'intuition mérite d'être cultivée, pas idéalisée, pas mystifiée, mais cultivée comme on cultive un jardin, avec patience, régularité et attention. Parce que plus nous apprenons à nous écouter et plus cette intelligence intérieure devient accessible. Enfin, le troisième enseignement que ce livre m'a apporté, et peut-être le plus important de tous, c'est que nous avons le droit de changer. Le droit de devenir la personne que nous sommes censés devenir et que nous désirons être, même si cela surprend les autres, même si cela remet certaines habitudes en question et même si cela nous effraie parfois nous-mêmes. La vie n'est pas un contrat signé une fois pour toutes, elle est en mouvement, c'est une évolution permanente et je crois que ce livre célèbre magnifiquement cette idée. Et avant de clôturer, j'aimerais dire que Mange, Prie, Aime est un livre que l'on peut lire à différents moments de sa vie, mais il prend souvent une résonance particulière lorsqu'on traverse une période de transition, lorsque l'on sent qu'une ancienne version de soi-même est en train de s'effacer pour qu'une autre doucement émerge. Et au-delà du récit de voyage, ce livre est avant tout une réflexion sur la reconstruction de soi après une crise profonde. Il explore la manière dont une personne peut perdre ses certitudes, traverser le chaos émotionnel, remettre en question les fondations de son existence, puis, pas à pas, réinventer sa relation à elle-même. Il aborde donc des thèmes universels qui nous concernent tous, la quête du bonheur, la solitude, la spiritualité, la liberté, l'amour, le courage de changer et la capacité à faire confiance à la vie malgré l'incertitude. Et peut-être que la véritable force de ce livre réside là, dans le fait qu'il ne nous donne pas une méthode, qu'il ne nous offre pas une recette ou une solution miracle, mais qu'il nous montre simplement qu'il est possible de se perdre sans être perdu. En tout cas, pour ma part, ce livre restera toujours associé à une période importante de ma vie et m'a transmis une leçon que je résumerai en une phrase, c'est que la vie devient extraordinaire, non pas parce qu'il nous arrive des choses extraordinaires, mais parce que nous apprenons à vivre pleinement ce qui nous arrive. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Du Bonheur à Lire. Je vous retrouve très bientôt sur Radio Tintouin pour une nouvelle rencontre littéraire, un nouveau voyage au cœur des livres qui éclaire, qui console, qui inspire et qui parfois nous transforme. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves et de votre monde intérieur.